Vous écoutez, on lit pour vous.
Des médecins souhaitent rééliminer la rougeole en luttant contre la désinformation. Un texte de Camille Baines de la presse canadienne paru le 16 mars 2024 dans Le Devoir. Alors que l'on connaît une hausse inquiétante des cas de rougeole, un médecin de Toronto se souvient de cette petite fille devenue aveugle, sans capacité de communiquer et incontinente après avoir contracté le virus. Le docteur Barry Goldlist était étudiant en médecine en 1973 lorsqu'il a vu cette fille d'une dizaine d'années à l'hôpital pour enfants de Toronto. La jeune fille avait développé une panencéphalite sclérosante subaiguë, PSS, une maladie rare et mortelle du système nerveux qui frappe généralement les personnes infectées par la rougeole avant leur deuxième anniversaire. C'était horrible de voir cette fillette en état de mort cérébrale. Elle est finalement morte dans cet hôpital, se souvient le docteur Goldlist. On nous disait qu'une personne sur 1000 qui contracte la rougeole développait une complication grave et qu'une sur 10 000 pouvait en mourir. On se dit que c'est assez rare, mais des millions d'enfants l'ont contracté avant la campagne de vaccination. Ainsi, même si le pourcentage était faible, les chiffres absolus, eux, étaient considérables. Avant l'introduction du vaccin contre la rougeole au Canada en 1963, ces infections étaient courantes parce que le virus provoque l'une des maladies les plus contagieuses. Le docteur Goldlist souligne que beaucoup de ses collègues ont récemment évoqué leurs expériences lorsqu'ils étaient enfants. Par exemple, sa belle-sœur qui s'est rappelée une éruption cutanée de rougeole sur tout le corps lorsqu'elle était enfant d'âge préscolaire. Même si elle portait un pyjama en flanelle douce, elle ne pouvait pas le boutonner car ça lui faisait trop mal quand il touchait sa peau, a raconté le docteur Goldlist. Le médecin connaît également une femme d'une cinquantaine d'années qui a vécu avec des lésions cérébrales après avoir été infectée par la rougeole à l'âge de 3 ans, ce qui l'a empêché plus tard de conserver un emploi. Désinformation et misinformation. Lui et d'autres professionnels de la santé s'inquiètent du fait que les mythes et la désinformation sur les vaccins infantiles de routine pourraient rendre de nombreux enfants vulnérables aux maladies infectieuses évitables, dans le cadre de ce qui est devenu un enjeu très émotif. Ils affirment que le fait que les gens n'aient pas vu les souffrances et les ravages causés par la rougeole ou ne s'en souviennent pas a également contribué à une certaine indifférence ou une insouciance à l'égard de la vaccination. Bien que la rougeole ait été déclarée éliminée au Canada en 1998, après l'adoption d'un calendrier de vaccination à 2 doses, des poches d'éclosion se sont produites dans certaines communautés peu ou pas vaccinées, parfois liées à des croyances religieuses, ainsi qu'aux voyages dans des pays où les programmes de vaccination ne sont pas aussi robustes. Par ailleurs, les doses de vaccination contre la rougeole qui auraient été ratées ou reportées pendant la pandémie de COVID-19 ont entraîné une augmentation des cas dans le monde entier, mais les convictions anti-vaccination, partagées dans les groupes de parents en ligne et ailleurs, avaient commencé à gagner des appuis bien avant cette date. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies aux États-Unis ont déclaré dans un communiqué conjoint à la fin de l'année dernière que l'augmentation des éclosions de rougeole et des décès dans de nombreux pays était stupéfiante, mais pas inattendue, étant donné la baisse des taux de vaccination. Dans les pays à faible revenu, où le risque de décès par rougeole est le plus élevé, les taux de vaccination ne sont que de 66 % à cause des perturbations survenues lors de la pandémie de COVID-19, a indiqué l'OMS. L'Agence de la santé publique du Canada a déclaré de son côté que l'enquête nationale de 2021 sur la couverture vaccinale des enfants montre que 91,6% des jeunes de 2 ans ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la rougeole. mais un peu plus de 79% des enfants âgés de 7 ans ont reçu les deux doses. Le Canada s'est fixé un objectif de couverture de 95% pour tous les vaccins infantiles recommandés d'ici 2025. L'Agence de la santé publique du Canada déclarait mercredi qu'on avait signalé depuis le début de l'année 29 cas de rougeole dans au moins 4 provinces. Le Québec, 19, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Ces cas étaient principalement liés à des voyages, mais incluaient des cas sans lien avec des déplacements ou d'autres infections, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle propagation dans la communauté. Vous écoutez, des médecins souhaitent rééliminer la rougeole en luttant contre la désinformation. Un texte de Camille Baines de la presse canadienne paru le 16 mars 2024 dans Le Devoir. Immunité collective, allaitement. La docteure Janice Hurd, pédiatre communautaire à Calgary, explique que certains parents choisissent de ne pas faire vacciner leurs enfants ou hésitent à le faire parce qu'ils croient les mythes selon lesquels la rougeole ou d'autres maladies n'existent plus, ne sont pas si graves ou que l'allaitement protège les bébés de l'infection. Je ne pense pas que les gens se rendent compte que ces maladies que nous prévenons grâce aux vaccins destinés aux enfants et aux rappels destinés aux adultes mettent la vie de nombreuses personnes en danger et qu'elles peuvent entraîner de nombreuses conséquences à long terme, a déclaré la Dr. Hurd, qui est aussi membre du comité consultatif de l'éducation du public à la Société canadienne de pédiatrie. 10% des enfants qui contractent la rougeole auront des complications, et ce ne sont pas des petites complications. On parle de choses comme des convulsions, une pneumonie et des lésions cérébrales à long terme qui ne disparaissent jamais. L'allaitement fournit une petite dose d'anticorps et est encouragé, mais un bébé exposé à des maladies potentiellement mortelles, comme la coqueluche, ne sera pas protégé, a rappelé la Dr. Hurd. Les vaccins stimulent le système immunitaire de l'enfant pour qu'il fournisse lui-même des anticorps et développe une immunité contre les maladies, a-t-elle ajouté. Certains parents pensent que leurs enfants seront protégés parce que d'autres ont été vaccinés, rappelle la Dr. Hurd. Or, il faut un pourcentage très élevé de personnes vaccinées, plus de 90%. Pour conférer une immunité collective à la population qui n'est pas vaccinée. Et il y a certaines maladies pour lesquelles l'immunité collective ne fonctionne pas, mais les gens n'y pensent pas, comme le tétanos, par exemple. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas protégé, a-t-elle souligné à propos de cette infection causée par des bactéries couramment présentes dans le sol et qui peuvent pénétrer dans l'organisme par une blessure ou une coupure. Pour la Dr. Hurd, donc, il est important que la profession médicale s'attaque à la désinformation et à l'hésitation vaccinale, un parent à la fois, grâce à l'éducation et à une approche sans jugement. Des médecins qui sont aussi des parents. La Dr. Cora Constantinescu, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary, comprend très bien les craintes qu'éprouvent certains parents à l'égard de la vaccination systématique de leurs enfants. Quand est venu le temps de faire vacciner son fils de presque un an contre le trio rougeole, oreillon, rubéole, elle a hésité, car elle se demandait si cela pourrait être risqué. Car Mme Constantinescu travaillait à l'époque pour l'Agence de la santé publique du Canada et elle examinait les événements indésirables relativement rares. Liée à la vaccination. Son fils avait déjà reçu des doses de routine à l'âge de 2, 4 et 6 mois parce qu'elle était alors convaincue qu'il s'agissait d'interventions essentielles. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à remettre en question la validité et l'importance de ces vaccins et j'ai commencé à m'inquiéter des effets secondaires potentiels, admet la Dr. Constantinescu, dont le fils a aujourd'hui 12 ans. J'étais une ardente partisane de la vaccination, puis j'ai eu mon premier enfant et j'ai réalisé que même moi, j'avais besoin d'aide et de soutien. Je me demandais simplement, Mon enfant qui, d'une manière ou d'une autre, ne contractera jamais la maladie, va-t-il être cette exception? Elle a finalement fait vacciner son fils et ses deux plus jeunes enfants contre la rougeole. Son expérience de parent préoccupé a conduit à la création d'une clinique d'hésitation vaccinale en 2016 à l'hôpital de Calgary, où on écoute les craintes des parents et instaure un sentiment de confiance. Les parents souhaitent l'intérêt de l'enfant. De nombreux parents qui sont hésitants face à la vaccination changent d'avis lorsqu'ils reçoivent un soutien, explique la docteure Constantinescu, même ceux dont les anxiétés sont dues à la désinformation. J'ai un certain nombre de parents qui ont commencé avec un ou deux vaccins, puis se sont sentis plus à l'aise et ont mis leurs enfants à jour. C'est un long processus et il faut de la patience, a-t-elle souligné. Ça me brise un peu le cœur. Presque tous les patients qui viennent vivent un rendez-vous très émouvant et ils disent tous « Je ne suis pas un anti-vaccin, je veux aider mon enfant. » Pour moi, ce sont les parents qui ont le plus besoin de nous car ils s'efforcent vraiment de faire les bons choix. Alors que la rougeole se propage dans plusieurs pays, la docteure Constantinescu estime qu'il est important de tirer les leçons de la pandémie en faisant appel, pour parler aux parents, à des champions du vaccin, notamment des leaders religieux ou des aînés, comme l'ont fait de nombreuses communautés autochtones. Elle admet que les professionnels de la santé demeurent une source d'informations fiables et doivent communiquer la menace d'une maladie à une personne ou une famille en particulier, au lieu de se concentrer sur la responsabilité collective. L'altruisme, c'est bien, mais la réalité, c'est que les parents prennent des décisions qui sont avant tout dans l'intérêt de leur enfant, explique-t-elle. Je crains de perdre la majorité silencieuse des gens qui sont pour les vaccins et qui auraient de toute façon fait vacciner leurs enfants. Et je pense que nous devons le souligner en ce qui concerne le calendrier de vaccination de routine. Il ne s'agit pas seulement de corriger des informations erronées. Si c'était le cas, on l'aurait fait. Il faut d'abord montrer son soutien, instaurer la confiance et ensuite donner un peu d'informations. C'était « Des médecins souhaitent rééliminer la rougeole en luttant contre la désinformation », un texte de Camille Baines de La Presse canadienne paru le 16 mars 2024 dans Le Devoir.
Utile pour tout, sauf appeler, un texte d'Olivia Lévy, paru le 7 avril 2024, dans La Presse. Un coup de téléphone, c'est devenu intrusif. Plus personne ne répond à son téléphone, lance Nina Duc, chargée de cours et doctorante à la Faculté de communication de l'UQAM. Il reste utile dans des moments très spécifiques. Si un ami traverse un moment difficile, il va vous appeler car un texto ne suffira pas. Votre voix sera un réconfort car elle n'est pas remplaçable quand on a besoin de soutien. Elle fait le parallèle entre la poste et le téléphone. Autrefois, on était content de recevoir des cartes postales. Désormais, on ne reçoit par la poste que de la publicité, nos taxes et nos impôts. Le téléphone, c'est pareil. C'est soit un sondage, une arnaque ou une mauvaise nouvelle. On doit repenser la notion d'appel téléphonique, estime Emmanuelle Parent, cofondatrice et directrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, Ciel. Quand on reçoit un appel, on se dit que c'est grave, on s'inquiète, car pourquoi appeler si on peut texter? Quand on appelle à l'improviste, on assume qu'on s'impose et qu'on interrompt une personne dans ses activités. Est-ce une urgence? On a besoin d'une réponse immédiate, d'où l'appel et le stress provoqué. On se rend compte que la nouvelle norme est de texter avant d'appeler pour fixer un rendez-vous. Cela dit, les nombreux textos et courriels peuvent être mal interprétés. On gagnerait à utiliser davantage le téléphone pour éviter les malentendus, souligne Emmanuel Parent. Un appel téléphonique est aussi une surcharge cognitive, selon celle qui est aussi autrice de l'essai jeunesse texté, publié, scrollé. Chez les adultes occupés, il faut gérer et répondre rapidement à de nombreuses sollicitations au quotidien. Quand sur le même appareil, on reçoit les messages du travail, des enfants, des amis, de la famille et qu'on doit leur répondre rapidement, un appel ajoute à la pression avec laquelle on doit conjuguer. Des communications en transformation. Les technologies ont évolué ces 15 dernières années et ont transformé nos façons de communiquer. Il est loin le temps où on tirait sur la rallonge du téléphone pour s'enfermer dans notre chambre pour parler des heures avec nos amis. Aujourd'hui, selon l'enquête Net Tendance 2023, au Québec, 86% des adultes ont un téléphone intelligent, 97% des 18-24 ans, 91% des 25-34 ans, 94% des 35-44 ans, mais on ne s'en sert presque plus pour appeler. On n'a pas de données scientifiques sur le volume d'appels, mais on se rend compte qu'on parle de moins en moins au téléphone. Au travail, les applications comme Teams et Zoom ont remplacé le téléphone, indique Claire Bourget, directrice en intelligence d'affaires et marketing à l'Académie de la transformation numérique, ATN, de l'Université Laval. Bell, Rogers et Vidéotron, pour des raisons stratégiques, ne communiquent pas sur les volumes d'appels de leurs clients, mais Vidéotron constate une évolution dans le comportement des utilisateurs. Aujourd'hui, nous remarquons que les clients utilisent de plus en plus leurs données en communiquant, par exemple, par voix ou vidéo avec leurs proches et leurs collègues par le biais d'applications tierces, exemple FaceTime, WhatsApp, Teams, Zoom, etc., indique l'équipe des affaires publiques de l'entreprise. Nina Duc constate toutefois dans ses recherches sur les adolescents un retour vers la voix et la parole pour les communications, notamment avec les messages vocaux. Les adolescents utilisent beaucoup les textos, mais depuis quelques années, FaceTime, audio et vidéo, a beaucoup de succès, tout comme les messages vocaux. Et que ce soit WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat, Slack, toutes ces applications offrent la fonction de pouvoir communiquer par appel audio ou vidéo. Il y a encore le besoin de se parler, estime-t-elle. Le pouvoir de la voix. Elisabeth Roy, présidente de Roy et Turner, entreprise de relations de presse en activité depuis 1995, a vu évoluer les façons de communiquer dans son métier. Du télécopieur aux nombreux appels téléphoniques, elle est passée au courriel et au texto. Je dis souvent aux plus jeunes avec qui je travaille, je ne suis pas meilleur que vous. C'est juste que, dans certains cas, je prends mon téléphone pour parler aux gens et ça donne des résultats. C'est un métier de relation. On ne peut pas construire des relations humaines professionnelles uniquement à travers des textos et des courriels, rappelle Elisabeth Roy. Au téléphone, il y a une valeur ajoutée. Ça fait plaisir de recevoir un appel, ajoute-t-elle. Il y a quelque chose de plus, une voix, une chaleur humaine. Récemment, j'ai appelé une amie qui avait perdu son emploi et j'ai senti qu'elle avait apprécié mon appel parce qu'on ne prend plus le temps de le faire. Il y a une implication émotive dans l'appel. C'est très différent. Le téléphone, c'est intime. C'est notre voix. On est confronté à la personne qui parle, analyse Nina Duc. Il y a des silences, de l'émotion. On a plus le contrôle. C'est une chose à laquelle on est plus habitué. Les transformations technologiques sont constantes. Et très souvent, on fait deux pas en avant, on revient en arrière, puis un pas sur le côté. Peut-être le téléphone cadre-t-il moins aujourd'hui avec la manière dont on vit. Ou faudrait-il le réhabiliter, demande Nina Duc. Car on perd une certaine humanité et même un sens des responsabilités. À force de ne pas répondre au téléphone, on ne veut pas affronter la réalité. On ne se confronte plus aux mauvaises nouvelles, aux autres. Il y a une certaine paresse aussi. Pourquoi ne pas répondre à son téléphone? Il n'y a plus d'espace ni de temps associé à la communication. Alors, en tant qu'humain, on reconfigure nos barrières. Quels sont les impacts sur les rapports humains? Les gens qui ont de bons indicateurs de bien-être sont des individus qui voient beaucoup les gens en personne, mentionne Emmanuel Parent. Communiquer par le numérique, c'est bien, mais il est plus important de se voir en personne, car ça fait du bien. Cela crée un lien social. Parler au téléphone est un entre-deux. Il ne faut pas sous-estimer son importance. Il y a de la spontanéité, de l'émotion, c'est chaleureux, réconfortant. Ne l'oublions pas. C'était « Utile pour tout, sauf appeler », un texte d'Olivia Lévy, paru le 7 avril 2024 dans la presse.
Le mystère résolu, des sacs de plastique compostables pas compostés. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 27 décembre 2024 dans la presse. Est-ce vrai que les sacs compostables ne sont pas compostés à Montréal? Mais alors, par quoi les remplacer? Nous avons reçu plusieurs questions de lecteurs au sujet des sacs de plastique compostables à la suite d'un article publié en octobre 2024 à propos de l'ouverture d'une première usine de compostage à Montréal. Les sacs de plastique compostables sont-ils toujours retirés? Après vérification, bien qu'ils soient acceptés par la municipalité, les sacs de plastique compostables sont effectivement éventrés avant d'être retirés de la circulation lorsqu'ils arrivent à l'usine de compostage. On doit les séparer des résidus et les envoyer à l'enfouissement, souligne Camille Bégin, conseillère en communication à la Ville de Montréal. La raison est simple. Ces sacs, qui sont faits d'une matière végétale, sont difficilement distinguables des sacs de plastique ordinaires faits à partir de pétrole. Si on voulait séparer les sacs en plastique compostable du reste, il faudrait faire un tri en vérifiant chaque sac un par un. Mais c'est impossible de prendre ce temps-là quand on reçoit un grand volume de matière, comme c'est le cas à Montréal, précise Vincent Beaudoin, spécialiste en gestion de matière organique. C'est pourquoi parfois, comme à Montréal, tous les sacs de plastique sont retirés afin d'éviter que le compost ne se retrouve contaminé par des morceaux de plastique. Attention cependant, dans certaines municipalités, il existe des procédés qui permettent bien de composter les sacs de plastique compostables. Et à l'inverse, dans d'autres, aucun sac de plastique, compostable ou non, n'est accepté. On ne peut pas généraliser à l'ensemble du territoire, ça dépend vraiment du procédé utilisé, résume Vincent Beaudoin. Pourquoi les accepter? Des sacs compostables acceptés au compost, mais pas compostés? Cela peut paraître paradoxal, d'autant plus qu'une fois envoyés à l'enfouissement, ces sacs dégageront du méthane en se décomposant. Si Montréal et d'autres villes les acceptent, c'est avant tout pour une raison pragmatique. Si les sacs étaient interdits, beaucoup de citoyens abandonneraient la participation à la collecte. Ça vaut vraiment la peine pour que les gens participent davantage, souligne Vincent Beaudoin. Certes, on envoie des sacs à l'enfouissement, mais en faisant ça, on évite qu'un grand volume de matière organique s'y retrouve. Et ces sacs présentent aussi l'avantage de ne pas poser de problème si des fragments se retrouvent dans le compost, contrairement à des sacs de plastique ordinaires. La guerre cachée des sacs. Si on doit retirer tous les sacs, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. Souvent, les citoyens utilisent pour composter des sacs qui ne sont pas adaptés au compostage, et ce, sans le savoir. En fait, il y a une incompatibilité entre les produits vendus et les procédés de compostage utilisés par les municipalités, explique Vincent Baudouin. Pourquoi il y a 26 choix de sacs sur les tablettes, alors qu'on sait très bien qu'il y en a probablement 3 qui correspondent à la réalité québécoise et qui pourraient vraiment être compostés, lance-t-il. En particulier, les sacs oxo-biodégradables. C'est tout en haut de la liste de nos problèmes, soupire Maud Filion, experte en gestion des matières résiduelles à la Ville de Montréal. Ceux-ci sont faits de plastique ordinaire, auquel on a ajouté un additif pour qu'ils se dégradent plus vite. S'ils sont utilisés pour le compost, ils posent donc un risque de contamination, alors que leur appellation incite justement à les utiliser de cette façon. La vraie question n'est donc pas autour du sac compostable, mais autour de cette guerre cachée, soupire Vincent Baudouin. Il y a des industries qui sont juste là pour vendre leurs salades. Ce qu'il faudrait faire surtout, c'est de mieux contrôler ce qui se trouve sur les tablettes pour que les citoyens puissent faire le bon choix, ajoute-t-il. Que choisir, finalement? Dans les municipalités où c'est le système des sacs mauves qui est employé, il faut utiliser ceux-ci et pas d'autres pour composter. Ailleurs, dans l'idéal, il vaut mieux se tourner vers des sacs en papier ou du papier journal, ou même ni sac ni papier journal, afin d'être certain que les sacs finiront bien eux aussi au compost avec les matières résiduelles qu'ils contiennent. Si on souhaite utiliser des sacs de plastique pour composter, il faut s'assurer de choisir des sacs certifiés compostables, à condition bien sûr que sa municipalité les accepte. La certification de référence au Québec est celle du Bureau de normalisation du Québec, CAN-BNQ-0017-088 ou ISO-170-88. Quant aux sacs oxo-biodégradables, biodégradables ou autres, qui n'ont pas de certification prouvant qu'ils sont bien compostables, ils sont à fuir pour le compost. Et dans le doute, on peut toujours appeler sa municipalité pour vérifier ce qu'elle accepte ou non, ou ce qu'il est préférable d'utiliser, conseille Vincent Baudouin. C'était « Le mystère résolu des sacs de plastique compostables pas compostés », un texte de Chloé Bourquin, paru le 27 décembre 2024 dans la presse.